On accueille Julie au 39-21. Bonsoir Julie.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Julie et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 34 ans et je vous appelle ce soir de Rouen en Normandie.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Julie, dites-moi.
Alors je vous appelais ce soir pour vous parler de handicap et notamment d'accessibilité avec un peu un axe différent de ce qu'on entend en général. J'allais vous parler en fait des familles qui ont un enfant en situation de handicap.
Oui.
On parle souvent des adultes, mais pas souvent sous l'axe des enfants.
Mmh. On vous écoute, Julie.
Alors moi-même, je ne suis pas en situation de handicap, mais donc j'étais maman d'un enfant polyhandicapé. Quand on dit polyhandicap, c'est-à-dire que mon fils était handicapé moteur, il ne pouvait pas du tout s'asseoir, il ne pouvait pas utiliser ses mains, il n'avait pas la vue, donc on était sur un handicap très lourd. Et donc, Arthur, je m'en suis occupée pendant tout le temps de sa pathologie. Donc, il est resté avec nous 8 ans. Et pendant les 8 années, en fait, auprès d'Arthur, on s'est beaucoup mobilisés nous-mêmes sur les réseaux sociaux et après avec des associations qu'on a montées pour pouvoir mettre un peu en avant, parler du handicap, montrer un petit peu ce qui peut faire... Ce qui peut faire peur, ce qui peut poser question et aussi parler beaucoup d'accessibilité. Et notamment, un des aspects et un des gros enjeux pour les familles, c'est l'accès aux équipements en fait, qui vont leur permettre de pouvoir se déplacer en fait, avec leurs enfants. Parce que quand on parle d'accessibilité, on pense tout de suite à l'accès, par exemple, aux établissements qui reçoivent du public, etc. Mais le premier enjeu, par exemple, pour les familles, c'est déjà d'avoir accès aux équipements. C'est-à-dire que, par exemple, nous, la première douche froide, ça a été de se dire, Arthur était bébé, on pouvait le transporter dans une poussette classique. Et après, la première difficulté qui s'est posée à nous, ça a été de se dire, Arthur ne rentre plus dans une poussette, il va falloir passer sur un équipement adapté à sa pathologie. Et là, la première difficulté en termes d'accessibilité, c'est le financement en fait, de ces équipements. Une poussette adaptée, par exemple, comme celle pour Arthur, donc il ne pouvait pas du tout rester assis. Donc, il lui fallait un maintien au niveau du tronc, au niveau du buste, au niveau de sa petite tête pour qu'il soit confortablement installé. Ce type d'équipement, par exemple, c'est 4000 euros.
4 000 euros.
Pour une poussette.
Ce qui est beaucoup, donc, ce qui est énorme.
C'est énorme. Donc, je vous laisse imaginer pour une famille qui a un enfant en situation de handicap, souvent un des deux parents en fait, arrête son activité professionnelle ou doit en tous les cas la réduire pour pouvoir s'occuper de sa prise en charge et de gérer en fait, toute la coordination de ses rendez-vous et de pouvoir être... présent au quotidien avec lui. Par exemple, l'accès en fait, à ce type d'équipement, c'est un vrai point en fait, pour les familles. Alors, il y a des prises en charge au niveau de ces équipements, mais qui restent vraiment très minimes en fait, par rapport à l'enveloppe globale. Par exemple, sur une poussette ou sur un fauteuil, on est sur environ une prise en charge de la sécurité sociale à hauteur d'un petit peu moins de 1 000 euros. Et pour pouvoir après avoir des fonds supplémentaires, il faut passer par des demandes qui passent par des dossiers qui doivent passer en commission et qui prennent des mois avant d'avoir une réponse favorable ou défavorable pour une prise en charge de matériel.
D'accord. Et donc, vous, aujourd'hui, votre action, elle se concentre sur quoi ?
Alors nous, notre action, elle se concentre sur différents aspects. C'est-à-dire que moi, Arthur, on avait monté une association pour pouvoir justement subvenir aux besoins d'Arthur, notamment sur ces aspects d'équipement. Parce qu'on avait beaucoup d'équipements à financer pour pouvoir se déplacer avec Arthur. Notamment, le dernier gros achat qu'on avait eu à faire, c'était un véhicule adapté. On avait dû acheter un véhicule avec une rampe qui nous permettait en fait de pouvoir monter Arthur dans le véhicule via le coffre en fait. Ça, ce type de véhicule, par exemple, c'est 30 000 euros. Donc, on avait monté une association pour pouvoir nous aider, nous, en tant que parents, à financer ce type d'équipement. Et au décès d'Arthur, on a souhaité en fait poursuivre notre engagement pour les familles et on s'est dit, on n'est pas tout seul en fait à vivre tout ça. Et que ce soit sur des questions d'accessibilité, sur des questions d'information, on s'est engagé pour pouvoir parler du handicap et accompagner d'autres familles qui ont des enfants en situation de handicap sur la Normandie.
Vous parlez de 30 000 euros. Pourquoi ça coûte si cher, en fait? Ça vous paraît peut-être être une question un peu naïve, mais comment on peut atteindre 30 000 euros pour, donc si j'ai bien compris... équiper une voiture pour qu'elle soit accessible à une personne handicapée?
Alors, il y a différents types d'équipements. Hein. Ça peut passer d'une modification du poste de conduite, par exemple, pour un adulte qui est en capacité de conduire son véhicule. Là, Arthur, nous, c'était vraiment de pouvoir lui permettre d'accéder au véhicule via une rampe. C'est-à-dire qu'on achète un véhicule classique, qu'on va après faire transformer dans un établissement spécialisé. Donc en fait, il y a deux enveloppes. Il y a l'enveloppe en fait d'achat du véhicule en tant que tel, et ensuite une enveloppe dédiée à l'aménagement, à la transformation en fait de ce véhicule pour qu'il soit adapté à la personne. Nous, sur les 30 000 euros, l'adaptation du véhicule, on était sur une enveloppe d'environ 12 000 euros. Mmh. Pour pouvoir transformer ce véhicule classique en fait en un véhicule adapté. C'est-à-dire qu'on ouvrait le coffre de notre voiture et on avait une rampe, ce qu'on appelle manuelle, donc on pouvait descendre directement à la main pour pouvoir faire monter Arthur dans le véhicule.
D'accord. Et donc, tout ça coûtait combien exactement pour Arthur?
En tout, le véhicule, oui, on était sur une enveloppe d'environ 32 000 euros.
C'est énorme.
On a une partie qui est possible d'être prise en charge en fait par ce qu'on appelle la MDPH, donc la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui finance une partie du projet, en général d'une enveloppe de 5 000 euros. Et ensuite, le reste, il faut passer le reste est à la charge au final des familles où il faut aller chercher d'autres types de financement. Mais encore, nous, c'était une enveloppe que de 30 000 euros parce qu'on n'avait qu'un enfant. Mais quand on passe, par exemple, moi, je connais d'autres familles qui ont aussi d'autres enfants qui, eux, sont valides. On passe sur des catégories, par exemple, de véhicules qui sont beaucoup plus gros. Et on peut monter jusqu'à une enveloppe de 50 000 euros pour un véhicule.
Et quels sont ces autres organismes dont vous parlez? Parce qu'on entend parler beaucoup de la MDPH, finalement. Mais quels sont ces autres organismes, donc?
Alors, les autres organismes, nous, on a été passés par le conseil départemental pour nous aider sur le financement du véhicule. Il y a la possibilité aussi de faire appel à des associations en fait qui peuvent financer ce type de projet. Nous, par exemple, sur Rouen, on a une association qui collecte en fait des bouchons en plastique pour pouvoir récolter des fonds et qui reverse ces fonds à des personnes en situation de handicap pour financer différents projets. Donc, il faut faire un dossier de présentation de son projet, de son besoin en financement. Et après, l'association fait une participation. Mais nous, par exemple, pour Arthur, donc, nous nous sommes appuyés sur le financement de la MDPH et du département. Et on a complété par des fonds personnels et beaucoup d'actions qu'on a menées en fait, par notre association.
Alors là, on parle des véhicules, hein, je dis. Oui. Mais j'aimerais qu'on parle de l'accessibilité. Parce que je lis que sur votre fiche, par exemple, ce qui semble assez incroyable, c'est que la personne qui est chargée donc, de vous aider dans le financement de ce véhicule, par exemple, son bureau n'est même pas accessible.
Oui.
C'est quand même... ça paraît incroyable que des gens qui s'occupent de ça n'aient pas un bureau accessible. Alors ça, c'est pour Rouen, hein, simplement. C'est pas valable pour
non,
toutes les villes.
Non, c'est pas pour toutes les villes, non, effectivement. En fait, ce qui s'était passé, c'était, voilà, on avait un rendez-vous dans un institut pour parler d'un projet sur des questions d'accessibilité à Rouen, notamment sur la question des aires de jeu inclusives. Et on s'est retrouvé à un rendez-vous avec un élu de la ville. Et en fait, on nous a appelés quelques heures avant le rendez-vous en nous disant « Ah oui, mais alors du coup, on a un souci, c'est que la personne qui est déléguée à ce sujet, en fait, son bureau n'est pas accessible parce que ben voilà, l'ascenseur n'était pas disponible et que le bureau n'était pas fait pour recevoir du public en situation de handicap. Mmh. » Donc, on s'est retrouvé à aller dans un... Voilà, on nous a trouvé un autre bureau pour pouvoir nous accueillir avec Arthur au rez-de-chaussée pour qu'on puisse avoir cet échange.
Qu'avez-vous subi avec Arthur en termes d'accessibilité ? Parce que vous avez subi des échecs comme ça. Je vois qu'Arthur a été, durant toute sa vie, il a affronté des situations comme celle-là, où il ne pouvait pas se rendre dans tout un tas d'endroits.
C'est, en fait, on ne se rend pas compte, mais chaque déplacement est un vrai parcours du combattant.
C'est pas normal, ça.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part de notre logement, on ne sait pas comment ça va se passer. Tout peut arriver. Ça peut être, par exemple, des difficultés, ne serait-ce que pour aller à l'hôpital. Pour des soins pour Arthur, des fois, on mettait plus d'une heure à pouvoir se garer dans l'enceinte du CHU parce que très peu de places adaptées, le parking n'était pas accessible à notre véhicule parce que les véhicules qui sont adaptés sont hauts. Ils font quasiment 2 mètres de hauteur, sauf que pour des parkings, par exemple, souterrains, etc., ce type de véhicule ne passe pas.
Oui, oui.
Donc, par exemple, voilà, des problématiques d'accès dans ce sens-là. Les places handicapées qui sont souvent squattées, entre guillemets, par des personnes valides pour aller chercher la baguette de pain ou pour
ben
aller...
Oui, mais ils ne restent pas longtemps, vous savez, ils ne restent pas longtemps.
Tout à fait. Ou alors, par exemple, un véhicule qui vient se mettre juste derrière le nôtre, alors que les places sont faites pour qu'on ait justement la place de pouvoir ouvrir notre rampe d'accès, qui va se garer juste derrière ma voiture, va se dire « c'est pas grave, ça va pas gêner ». Mais par exemple, je ne pouvais plus sortir la rampe d'accès, je ne pouvais donc plus rentrer Arthur dans son véhicule. Ça a pu être des problématiques d'accès pour aller... au cinéma, pour aller se promener dans un musée.
Resto aussi,
Resto, pour aller faire les courses, hein, c'est partout. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on part avec notre enfant, on réfléchit où est-ce qu'on va pouvoir déjà se stationner, enfin, quel transport on va utiliser, où est-ce qu'on va pouvoir se stationner. Et il faut en fait prendre ce temps de rechercher l'information, de savoir est-ce que l'endroit où on va pouvoir accueillir en fait notre enfant.
Oui, c'est à vous de faire votre enquête en fait, avant.
C'est ça, tout à fait, de savoir est-ce que je vais me retrouver avec ce médecin, par exemple, que je ne connais pas, est-ce que son cabinet va être accessible. Ne serait-ce que par exemple 3 marches, ça paraît tout simple. Mais pour nous, c'est insurmontable. C'est-à-dire que quand vous êtes avec un enfant qui pèse quasiment 30 kilos plus un fauteuil roulant, de le porter quand on est toute seule, c'est impossible. Donc, ça sollicite en fait de demander aux passants s'il y en a. Enfin, voilà, c'est toute une organisation en fait. Il y a beaucoup de situations qui peuvent se retrouver complexes. Une fois, je suis juste allée voir une expo avec Arthur dans un musée. Le musée était noté comme accessible, il l'était, sauf qu'il fallait que moi je puisse rentrer donc par les marches du musée pour aller me signaler auprès de l'accueil, dire que j'avais mon enfant, donc Arthur m'attendait dehors tout seul du coup pour que je puisse aller signaler que nous étions présents. Et ensuite, on vous fait faire tout le tour du bâtiment et on vous fait passer par des chemins de traverse pour pouvoir accéder via les réserves, via différents lieux un peu incongrus, aux salles d'exposition, par exemple.
Je pensais pourtant, Julie, ayant été, moi, créateur d'un endroit public, hein, d'une création d'un bar, où j'ai dû d'emblée travailler sur l'accessibilité. Et je peux vous dire que c'était une pente qui devait faire pratiquement 30 mètres de long. Hein, bon, l'établissement, la superficie de l'établissement, ça pouvait se faire. La surface le permettait. Voilà, je cherchais mes mots. Mais je me souviens qu'on a, on est passé dans une commission pour un peu négocier le degré de pente, ce qui nous a été d'ailleurs, puisque je pense que les gens de cette commission ont vu que nous faisions vraiment, que nous étions de bonne composition vraiment et que nous voulions vraiment faire bien les choses, ça nous a été accepté. Mais vous évoquez tout un tas d'endroits qui, me semble-t-il, sont passés à travers ces commissions. En fait, ils ont fait 100, parce que visiblement, tous ces endroits où vous êtes rendu avec Arthur, ils n'étaient pas construits depuis 80 ans. Il y avait des endroits neufs dans tout ça.
Il y a des endroits neufs, mais qui, malheureusement, n'ont pas été... pas sur tous les aspects, n'ont pas été pensés.
Et je croyais que c'était obligatoire, pourtant.
C'est obligatoire. Après, la difficulté, c'est est-ce que ces lieux sont contrôlés, en fait.
Est-ce qu'il y a des passe-droits, vous, en tant que maman, ayant eu ces expériences avec votre fils, à votre avis, est-ce qu'il y a eu des endroits qui vous ont semblé, finalement, avoir bénéficié de passe-droits et où il n'y avait pas une accessibilité totale pour les personnes porteuses de handicap?
Je ne dirais pas des passe-droits, mais je dirais que... des fois, sur certains établissements ou sur certains lieux, on va mettre le logo accessible en ayant mis juste une petite rampe ou un petit effet qui va faire que quand on arrive, on se dit « Ah, ce lieu est accessible », mais l'accessibilité, ce n'est pas qu'une rampe. Il y a beaucoup d'autres aspects. C'est par exemple, est-ce qu'il y a des toilettes qui sont adaptées pour les personnes en situation de handicap? La place de parking à disposition à proximité. Que par exemple, pour une personne en fauteuil, qu'elle puisse par exemple prendre son billet d'entrée, par exemple, à une exposition et que qu'elle ait la possibilité de se mettre à hauteur pour pouvoir payer sa carte bleue, son entrée, etc. Enfin, ça passe par plein de choses. C'est pas juste ce qu'on voit avec une rampe d'accès, en fait.
Oui, en tout cas, je pense que, sincèrement, la France a encore beaucoup de progrès à faire par rapport à nos amis belges, nos amis hollandais et puis toute l'Europe du Nord où quand même la question de l'accessibilité est tout de même quelque chose sur lequel on ne mégote pas dans ces pays et on devrait encore une fois prendre exemple, mais bon voilà, c'est comme ça. Et je voudrais quand même revenir sur quelque chose, Julie.
Oui.
30 000 euros, 50 000 euros, 40 000 euros pour équiper des voitures. Jérémy, au 39-21, au 7-39-21, pardonnez-moi, nous dit que ces prix sont aberrants, bien évidemment, mais Jérémy nous dit que les préparateurs du risotti, gruau, se gavent sur les prix. Qu'en pensez-vous, vous ?
Je pense qu'effectivement, la difficulté, c'est qu'on n'est pas sur... des quantités de transformation de véhicules qui permettent peut-être de faire des négociations de masse sur les matériaux qui sont utilisés. Donc, je pense qu'il y a cet effet un petit peu de dire que voilà, ils vont pas transformer je ne sais pas combien de milliers de véhicules par an, par exemple. Mais je pense qu'effectivement, il y a très certainement quand même un effet de niche qui permet en fait à certaines entreprises de pouvoir profiter un petit peu de... Voilà, c'est un besoin, on n'a pas le choix.
Oui, mais est-ce que la question ne se pose pas là plutôt ? Est-ce que parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a affaire à des familles qui sont dans un besoin vital d'organisation, ou alors autrement la personne qui porte son handicap reste à la maison et ne fait plus rien. Donc il y a là un besoin essentiel. Et finalement, comme il y a un besoin essentiel, allez, bim, on charge bien la mule sur les prix.
Il y a un besoin essentiel, clairement, et les entreprises, je pense, l'ont compris, mais je ne parle pas que de véhicules. Par exemple, on avait trouvé avec des familles un siège auto qui était conçu pour un enfant classique qu'on pouvait acheter 300 euros sur Internet. On lui rajoutait juste un plot, ce qu'on appelle un plot d'abduction, c'est-à-dire un plot qui se met entre les jambes de l'enfant pour le maintenir au fond du siège. On passe sur un équipement qui est adapté, qui est vendu après 2 000 euros. Est-ce que l'ajout d'un accessoire seulement sur le siège auto permet de dire qu'on fait peut-être quasiment un x10 sur le prix? Parce que du coup, ça rentre dans la catégorie handicap, ça pose question en fait.
Bien évidemment que non, bien évidemment que non. Et je trouve qu'il devrait y avoir en tout cas un regard de poser sur ces fournisseurs pour les limiter, vous voyez, dans... alors, bien évidemment, on est dans le marché, un marché de libre, d'une liberté totale, donc tout le monde fait ce qu'il veut, mais quand il s'agit du handicap, quand même, c'est choquant. Vous voyez, même ce que vous venez de me raconter, un siège auto qui passe à x10, c'est carrément choquant. Quand on pense en plus que c'est à destination de personnes qui sont déjà... pour qui ça n'est pas facile. Donc, c'est assez révoltant d'entendre ça. Jérémy,
il y a un très fort impact financier pour les personnes en situation de handicap, parce que la difficulté, c'est de ne pas pouvoir travailler comme on le souhaite. Donc, il y a une vraie précarité qui se met en place sans la volonté en fait, des familles ou des personnes qui sont touchées par une pathologie. Et elle vient s'ajouter à cela, en fait, effectivement, ces prix aberrants sur des équipements ou sur des choses du quotidien qui sont essentielles, en fait, sur lesquelles on ne peut pas du tout...
Vous ne m'enlèverez pas de l'esprit que je pense que voilà, y a un abus total là-dessus. Laurence nous dit qu'en Suède, tous les endroits sont adaptés pour les personnes handicapées. Et puis, on a un autre SMS au 739-21 qui nous dit que l'on pourrait recycler aussi tous les anciens véhicules de SMUR, de SAMU, qui arrivent en bout de vie. Et au lieu que vous payiez des 30 000, 40 000, 50 000 euros, peut-être que c'est... ces véhicules qui sont déjà équipés de pas mal de en tout cas de ils sont aménagés pour tout ça. Peut-être qu'il faudrait revoir ça et recycler ces véhicules, changer le moteur, les remettre à neuf.
Oui, les véhicules et même les équipements de manière générale. On retrouve souvent des fauteuils qui ont été quasiment peu utilisés, qui se retrouvent sur le bon coin ou même dehors. Il y a tout un marché de seconde main à mettre en place parce qu'au final, par exemple, mon fils est décédé quasiment 4 mois après qu'on lui ait acheté son nouveau fauteuil roulant qu'on a financé et qui était d'une valeur de 8 000 euros.
Oui, non, mais c'est...
Qu'est-ce qu'on fait après de ce matériel-là qui est neuf,
ces prix sont aberrants. Ces prix sont aberrants.
Ah, mais clairement.
On parle de 8 000 euros pour des familles. Je ne comprends pas comment tout ça n'est pas réglementé. Je vous dis, je suis certain que les fabricants s'en mettent plein les fouilles, comme on dit. Je dis plein les fouilles parce qu'on est limite dans l'exploitation. Et je ne parle pas d'escroquerie, mais le mot est dit quand même.
Et vous verrez, les familles, du coup, créent des associations pour leur enfant.
Vous m'étonnez. Vous m'étonnez.
Pour pouvoir monter des actions pour financer ces équipements-là.
Mais c'est pas normal.
Sur les plateformes Litchi, etc., vous allez voir des cagnottes participatives pour financer ce type de projet. Ça part dans tous les sens. Parce que malheureusement, on a que ces solutions-là. On ne peut pas se retrouver sans fauteuil roulant ou sans véhicule. On n'a pas le choix. Donc, il faut trouver un moyen de financer.
Complètement. Pour que vous qui nous écoutez, vous compreniez bien la différence entre la France et les pays aussi, les pays d'Europe du Nord. Et encore une fois, je vous parle aussi de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, où tout est beaucoup plus évolué. Exemple, à Paris, la RATP. Écoutez, il y a beaucoup de stations où il y a une bonne cinquantaine de marches à gravir, nous dit Véronique sur Facebook, sur le groupe de parole Facebook. Voilà, beaucoup de choses ont été dites. Julie, votre association s'appelle Un Monde pour Arthur. Vous continuez donc d'aider les familles à financer ces choses très très chères. Où est-ce qu'on peut vous trouver très vite?
Alors, nous, l'association, donc, c'était Un Rêve pour Arthur et c'était une association qu'on avait fait pour financer les thérapies d'Arthur. On a monté une nouvelle association qui s'appelle Héros Family, qui accompagne les familles qui ont un enfant en situation de handicap On leur propose des rencontres, des formations et on les met en réseau pour que justement ils puissent s'entraider. Et donc on est visible sur Facebook et on a un site internet.
Vous retrouverez bien évidemment tout ce qu'il faut pour rejoindre Hero Family. Bravo et courage à vous Julie, s'il n'y avait pas
Merci
de gens
beaucoup.
Comme vous, ce monde tournerait bien moins rond. Passez une bonne soirée, on vous embrasse. Au revoir.
Merci Olivier.